de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, le 3 octobre 2019, je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Chers auditeurs, maintenant, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec les journaux.
Serviteurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo et la première dame ont assisté à la commémoration de la Journée nationale du batik 2019. Le ministère indonésien du tourisme prépare 1 million d'euros pour la licence MotoGP 2021. Le ministère de l'Éducation et de la Culture appelle le ministère des Affaires étrangères à obliger des diplomates qu'ils portent le batik. Les représentants des pays de l'OCI visitent le site de production de vaccins biopharma. Le gouvernement de la résidence de Sangihe coopère avec le général Santos Philippines. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo et la première dame Iriana Joko Widodo ont assisté à la commémoration de la Journée nationale du batik 2019 mercredi à Puro Mangkunegaran, Surakarta, dans le centre de Java. Jokowi a déclaré à cette occasion que le batik indonésien était reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel mondial depuis 2009. Après une décennie, le peuple indonésien devrait continuer à préserver le batik avant qu'il devienne une fierté pour le peuple indonésien et sur la scène internationale.
Karena sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO,
le batik a été reconnu par l'UNESCO. Nous devons continuer à le préserver pour que notre batik puisse devenir mondial. Bien que le batik soit mondial, mais de plus en plus mondial comme un patrimoine immatériel qui est la fierté de nous tous. Le président Joko Widodo a également encouragé les efforts visant à introduire le batik au milieu de la génération du millénaire. Selon lui, le batik peut être inclus dans l'une des matières enseignées à l'école afin que les élèves puissent mieux connaître le batik. Dans le SMK, la question du batik est devenue un contenu local 3 fois par semaine. Je pense que c'est bien et peut être mis en œuvre au collège ou au lycée pour présenter le début du batik et sa philosophie. Nous avons des milliers de types de batik à introduire en particulier aux jeunes. Lors de la commémoration de la Journée nationale du batik 2019, le président Joko Widodo a remis ses récompenses aux représentants de la communauté pour leurs efforts de la préservation et du développement du batik. En outre, il a également assisté à la signature d'un mémorandum d'accord entre la Banque Mikro Wakaf et la Fondation indonésienne du batik. Le ministère indonésien du tourisme soutient la mise en œuvre de la compétition mondiale de course automobile MotoGP 2021 à Mandalika, dans l'ouest de Nusa Tenggara, en préparant un fonds d'un million d'euros pour l'obtention d'une licence MotoGP. Dans son allocution prononcée lors de la remise de prix du journaliste touristique indonésien 2019 à Jakarta, mercredi le 2 octobre, Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, a déclaré que son parti avait préparé les fonds car ce championnat du monde avait une grande valeur médiatique.
Nanti akan ada tahun 2021 MotoGP. Kemenpar akan mendukung 1 juta euro.
Iria en MotoGP 2021. Le ministère du Tourisme financera 1 million d'euros sur environ 10 millions nécessaires pour payer une licence MotoGP. Pourquoi le ministère du Tourisme veut-il? Encore une fois, à cause de la haute valeur médiatique. Donc, le direct est grand. La valeur médiatique est beaucoup plus élevée. Nous attirerons environ 100 000 personnes, 600 000 personnes, environ 100 millions de dollars américains. Par exemple, 10 000, le taux d'essence est d'un trillion. Mais la valeur médiatique de MotoGP est doublée, 2 trillions. Diffusé par environ 60 diffuseurs dans environ 100 pays. Selon le ministre Arif Yahya, la valeur des médias est la clé du succès de la promotion des destinations touristiques indonésiennes. Mandalika, qui fait partie des 10 destinations prioritaires du ministère du Tourisme, est un endroit approprié pour construire le circuit MotoGP. Le ministère indonésien de l'éducation et de la culture appelle le ministère des Affaires étrangères à adopter une politique exigeant le port de vêtements de batik pour les diplomates à l'étranger. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'éducation et de la culture, Muhajir Effendi, par intermédiaire du directeur du patrimoine et de la diplomatie culturelle, Najamuddin Ramli, lors d'une conférence de presse liée à la célébration des décennies de la Journée nationale du batik à Jakarta mardi. Selon lui, le port du batik lors de chaque réunion avec des pays amis au niveau bilatéral et multilatéral est une forme de cohérence de l'Indonésie dans le maintien de l'existence du batik en tant qu'héritage culturel de fierté nationale.
Kami juga menghimbau kepada Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi.
Et nous appelons également la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a adopté une politique selon laquelle les diplomates participant à des activités bilatérales et multilatérales doivent utiliser le batik. Enlever le manteau noir qui a été porté, porter une veste de batik, porter des vêtements de batik qui sont plus élégants pour que le monde soit diffusé vers l'Indonésie et que nous restions fidèles à l'héritage de nos ancêtres appelés batik. Seule l'Indonésie a le batik comme trésor de la civilisation d'aujourd'hui, de demain et pour toujours. En outre, Najamuddin Ramli a déclaré que le ministère de l'Éducation et de la Culture collaborerait également avec le ministère des Affaires étrangères pour promouvoir le batik en tant que patrimoine culturel mondial, organiser des ateliers et une formation en batik à l'ambassade d'Indonésie dans un certain nombre de pays en impliquant les activistes et les conservateurs de batik d'archipel. 16 représentants de 15 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, ont visité la production et la distribution du vaccin Biopharma, la rue Pasteur, dans la ville de Bandung, Java Occidental, mercredi. Le directeur des opérations de Biopharma, Mas Rahman Rustan, a déclaré que cette visite était un moyen de partager des connaissances sur la gestion de la chaîne du froid de la distribution de vaccins. Parce que, selon lui, dans la liste des pays de l'OCI, seulement l'Indonésie, par l'intermédiaire de Biopharma, qui possède 14 types de vaccins, est reconnu par l'Agence mondiale de la santé. Les représentants des pays ont visité le laboratoire où le vaccin est produit et également distribué avec le système de la chaîne du froid. Ils utilisent des blouses de laboratoire car l'endroit est très froid. Après cela, ils ont également visité le centre de production de produits biotechnologiques et de vaccins d'OCI dans le complexe de Biopharma. Le directeur des opérations de Biopharma, Mas Rahman Rustan, a déclaré que cette visite n'était qu'une collaboration de connaissances à court terme. À moyen terme, Biopharma coopérera pour transférer la technologie du système de gestion de la chaîne du froid des vaccins vers les pays de l'OCI. Jeps Ezer Gagana, résident des îles Sangihe dans le nord de Sulawesi, a déclaré que le gouvernement de la résidence de Sangihe avait établi une coopération avec la ville de General Santos aux Philippines. Cela a été dit mardi par le résident de Jeps Gagana aux Philippines. Selon lui, cité par Antara Tahuna mardi, la présence de l'entourage du gouvernement de la résidence de Sangui aux Philippines était basée sur une invitation du consulat général d'Indonésie à Davao. Le résident estime que la visite de travail actuelle des autorités locales est bénéfique et a un impact positif sur la résidence des îles Sangihe qui occupe une position stratégique dans la région indonésienne du Pacifique. Le résident a déclaré que les activités aux Philippines incluaient une réunion avec le gouvernement et des hommes d'affaires philippins qui seraient accompagnés par le consulat général d'Indonésie à Davao. Il espère que la coopération initiée avec le gouvernement et les entrepreneurs du général Santos aura un impact positif sur l'intensification de l'économie des habitants de la frontière de Sangihe. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le professionnalisme de TNI à l'occasion de son 74e anniversaire. L'Armée nationale indonésienne ou TNI auront leur 74e anniversaire le 5 octobre. Le voyage de TNI a été assez long et ardu pour maintenir l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie, NKRI. TNI est né du peuple en 1945 et avec le peuple a travaillé mutuellement pour défendre la proclamation d'indépendance du 17 août 1945. Dans son développement, TNI est devenu un élément important de l'histoire du peuple indonésien. Les flatteries et les critiques de la communauté ont été une expérience précieuse pour TNI. Sur la base de cette expérience et en faisant référence au programme de réforme 98, TNI n'est plus impliqué dans la politique concrète. Tous les attributs de TNI doivent être libérés s'ils entrent dans le monde politique ou civil. Tout cela consiste à faire preuve de professionnalisme. En ce qui concerne le professionnalisme, le commandant en chef de TNI, le maréchal Hadi Cahyanto, lors de préparation de sécurité de l'inauguration des membres de MPR, DPR et DPD, a affirmé être fier de tous ses soldats. Selon lui, le moment avant le 74e anniversaire de l'armée nationale indonésienne, ce que tous les soldats de TNI ont fait en matière de professionnalisme était très fier, comme la mise en œuvre des tâches étrangères exercées au Liban et au Congo qui obtiennent l'appréciation du monde international. En outre, l'armée nationale prend également des mesures pour éteindre les incendies de terre et des forêts dans certaines régions d'Indonésie. Le professionnalisme de l'armée nationale est très bon dans la mission de paix des Nations Unies. Dans certains cas, l'armée nationale indonésienne des Nations Unies a réussi à réduire les conflits comme au Liban et au Congo. Avec une approche persuasive et professionnelle, l'armée nationale indonésienne a pu calmer les parties en conflit. Même, ces approches sont devenues des références pour d'autres plusieurs casques bleus. Outre l'approche en mission de maintien de la paix, le magazine militaire international a également souligné le professionnalisme de l'armée nationale indonésienne, affirmant que l'armée indonésienne se classait au 3e rang des meilleurs soldats du monde en tant que soldat de combat. Avec des paramètres particuliers, l'armée nationale indonésienne était perçue comme un expert en matière de capacité de survie, de capacité de combat, de tactique et d'utilisation des armes sans équipement moderne. Idéalement, le professionnalisme doit être démontré avec la meilleure performance. Lorsque le personnel militaire travaillant comme un outil de l'État pour sauvegarder la souveraineté et la sécurité de la nation, conformément à la loi correctement, le professionnalisme se fera de lui-même. Joyeux anniversaire TNI. Serge Ritter, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia avec l'histoire d'aujourd'hui, le 3 octobre 2019. On commence par l'Irak a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 3 octobre 1932. Dans son histoire, l'Irak faisait partie du Sultanat d'Oman. Ensuite, la Grande-Bretagne a colonisé l'Irak pendant la Première Guerre mondiale. En 1920, l'Irak était sous l'administration du Royaume-Uni. Le 3 octobre 1932, l'Irak a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne et se présentait comme un royaume. En 1958, il a quitté la forme monarchique en déclarant la République d'Irak. de 1968 à 2003, le Parti socialiste Baath, sous le régime de Saddam Hussein, a dirigé l'Irak. L'invasion des États-Unis en 2003 a renversé Saddam Hussein et a été remplacée par un système parlementaire multipartite qui a par la suite formé son gouvernement basé sur des résultats des élections législatives. La suite avait 2 à 4, la première fusée a pénétré dans l'espace. Le 3 octobre 1942 était le début de l'histoire de l'aviation dans l'espace. Ce jour-là, pour la première fois, la fusée a traversé l'atmosphère et est entrée dans l'espace. C'est le premier objet de fabrication humaine à entrer dans l'espace. L'Allemagne a été le premier pays à réussir la mission. L'Allemagne, dirigée par Adolf Hitler à ce moment-là, développait de manière agressive des missiles balistiques à longue portée. La fusée avait 2 à 4, pesant 2 tonnes, a été conçue par le scientifique allemand Werner von Braun. Sa création a été reconnue internationalement et utilisée plus tard lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est se sont unis. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est se sont séparés pendant 45 ans. En 1949, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est ont chacune créé leur même pays, doté d'une forme de gouvernement et d'un système économique différent. En 1961, les Soviétiques ont établi le mur de Berlin, dont le but était d'empêcher le peuple de l'Allemagne de l'Est de fuir en Allemagne de l'Ouest. Les espoirs de réunification de l'Allemagne ont soudainement refait surface avec les réformes politiques initiées par le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev en 1985. La chute du mur de Berlin en 1989 a été l'impact de réformes qui ont fait naître de nouveaux espoirs d'unification allemande. Le 3 octobre 1990, on a officiellement réuni l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Seribu mawar yang ku inginkan, dan bukan puisi cinta yang ku harapkan. Sumpah ada
intitulé Bukan Puisi Cinta, signifie C'est pas la lettre d'amour, chantée par Opie. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3,3 kHz. Maintenant, écoutons en Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique Modernésie intitulée Le ministère de l'Environnement et des Forêts encourage la société à réduire des déchets à sa source. Le ministère de l'Environnement et des Forêts encourage le gouvernement régional à publier immédiatement une politique interdisant l'utilisation de plastique dans tous les magasins de détail et tous les marchés traditionnels. Ceci vise à surmonter le problème des déchets plastiques qui reste le problème le plus important en Indonésie. Cela a été dit par le directeur adjoint des biens et des emballages, direction de la gestion des déchets, des ordures et B3 du ministère de l'Environnement et des Forêts, M. Ujang Solihin Sidik, en marge de l'événement LIA Ecofest de 2019 à Gedung Sate Bandung, Java Occidental, dimanche. Ujang Solihin Sidik a déclaré qu'il y avait une province qui a interdit les utilisateurs de plastique, entre autres Bali et 19 régions qui n'utilisent plus de plastique jetable. Pour cette raison, Ujang a invité les autres gouvernements régionaux indonésiens à adopter une politique similaire visant à réduire la forte utilisation de plastique jetable en Indonésie. Mais il a rappelé que son parti n'avait qu'encouragé les gouvernements régionaux à adopter cette politique, parce que le problème des déchets était en réalité une obligation du gouvernement régional. La position du gouvernement central est seulement de soutenir et de faciliter. Selon lui, les déchets pourraient provenir des maisons, des écoles et des bureaux. On peut commencer à réduire les sources de déchets en n'utilisant pas d'éléments susceptibles de devenir des déchets difficiles à décomposer. Comme par exemple, il convient de réduire l'utilisation de plastique, de paille en plastique et de bouteilles en plastique. Les gens peuvent le remplacer par des sacs fourre-tout, des pailles en acier inoxydable et apporter un verre à boire. Le deuxième composant est la gestion des déchets. Les déchets qui ont été jetés par la communauté ne sont pas simplement jetés dans une décharge, mais illégalement triés pour être recyclés et avoir de valeur économique. Comme par exemple, les déchets sont transformés en compost. Le président de la Fondation LIA, le major général retraité Hendarji Supardi, a déclaré que son parti était prêt à soutenir le mouvement pour la préservation de l'environnement. Plusieurs activités de la LIA glissent toujours des messages liés à la préservation de l'environnement. L'un d'entre eux, à travers Ecofest 2019, qui se tenait à Gedung Sate. Dans le cadre de l'activité, un certain nombre d'événements sur le thème de l'environnement sont organisés pour éduquer les étudiants. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Siang-siang ku teringat senyummu, malam-malam ku terbayang. wajahmu ku kan selalu mengingatkan dirimu wahai kekasihku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Voice of Indonesia, toujours avec moi, Tiwi. Et vous venez d'écouter la chanson de Q9, dont le titre est Siang Malam, ou en français, le midi et le minuit. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, merci d'écouter Voice of Indonesia. Voici le magazine culturel. Cette fois-ci, nous allons vous présenter la cuisine typique d'Aceh, les nuits de Angkot Surat. La région d'Aceh, qui est entourée des eaux, rend les habitants d'Aceh proches des produits de la mer. Le produit de la mer le plus connu du passé était le thon ou Angkot Surat. Par les habitants d'Aceh, le thon est transformé en différents types d'aliments. Il y a le Angkot Kemama, un plat cuisiné à base de thon bouilli, puis fumé et séché au soleil. Bien que de texture dure, ces aliments sont durables et pas faciles à rassis. Angkot Kemama peut être transformé à nouveau en différents plats. En outre, il y a aussi mi Angkot Surat ou les nuits de Angkot Surat. Ils sont les cuisines d'Aceh à base de nuits et de thon. Les nuits Angkot Surat sont divisées en deux types, à savoir les nuits à la farine appelées les nuits Aceh et les nuits instantanées. Comment le cuire? Les piments rouges, les poivrons et les petits piments sont coupés en tranches et sautés. Puis donnez assez d'eau. Après ébouillition, les thon sont mis en assaisonnement. D'abord, le thon doit être nettoyé et cuit à la vapeur. Après vous être assuré que le poisson est presque cuit, mettez les nuits et les nuits Angkot Surat sont servies. Quand il est servi, l'arôme des épices parfumées, le goût de la graisse du thon mélangé avec des nuits et des assaisonnements est vraiment délicieux. Cette nouille est plus délicieuse lorsqu'elle est cuite avec un goût épicé. Sinon, le goût de la graisse est plus dominant. Il n'est pas difficile de trouver des restaurants qui vendent mie en côte surée, en particulier dans la ville de Banda Aceh. Le prix est relativement abordable, environ autour 18 000 rupiahs par portion. Chers auditeurs, soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. En plus de la fréquence de 3,3-5 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Chers auditeurs, la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie. L'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est l'application Alwa. 2019, l'application Alarme Citoyenne, soit ALWA, a commencé à fonctionner à Kulon-Progo. Cette application, qui appartient à la police de la région Kulon-Progo, dans la région spéciale de Yogyakarta, permet aux résidents de Kulon-Progo de signaler facilement toute perturbation de la sécurité et de l'ordre public, ainsi que de demander la présence de la police dans les plus brefs délais. Cette application ne comporte que quelques fonctionnalités, telles que la fonctionnalité d'assistance d'urgence, ou bouton panique, l'alarme silencieuse, les rapports de plaintes et diverses informations de services publics. Les résidents peuvent l'utiliser selon leurs fonctions dans certaines conditions auxquelles la communauté est confrontée. La technologie GPS et les services en temps réel sont utilisés dans l'application afin que celle-ci puisse être utilisée pendant 24 heures par la communauté. La fonctionnalité d'alarme silencieuse est l'une des fonctionnalités supérieures de cette application. L'alarme silencieuse sera très utile à quiconque voudra signaler un incident, tout en évitant les menaces à la sécurité de l'homme résultant de la panique des auteurs du crime. L'alarme est activée au centre de police avant que les membres les plus proches glissent vers l'endroit pour apporter de l'aide. Une autre caractéristique est le bouton de panique qui peut faire un bruit fort et être capable d'inviter les gens autour pour aider. ALWA propose également un rapport permettant aux résidents de signaler divers incidents. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour signaler divers incidents, y compris des frais illégaux, si les résidents les trouvent. En outre, ALWA dispose beaucoup d'informations sur les services de police. L'application dont le nom est ALWA peut être téléchargée via le Play Store Android ou l'App Store iOS. Après téléchargement, on fait la vérification de NIK ou carte d'identité des citoyens qui téléchargent. L'application nécessite une photo du visage de l'utilisateur. Cette vérification vise à faciliter l'intervention de la police et les efforts déployés pour éviter les rapports non sérieux. 28 000 personnes sur environ 500 000 habitants de Kulon-Progo l'ont téléchargé. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur. chers auditeurs, voilà la chanson de Ruth Sahanaya, dont le titre est « Cinta ini takkan mati », qui signifie « Cet amour ne meurt jamais ». Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis de la bonne musique dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions en streaming de www.voice.id. En outre, vous pouvez également discuter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons une chanson nostalgique chantée par Rin Jamain. La chanteuse, dont le nom complet est Rin Indrianti, est une chanteuse de jazz indonésienne. Elle a commencé sa carrière en chantant les chansons de jazz tout en assistant au programme de TVRI dans les années 1970. Après cela, en 1976, elle termine l'enregistrement de son premier album avec Jazz Lemana, une figure de jazz indonésie, avec une chanson phare intitulée Api Asmara. Cette chanson, créée par Yahya, raconte l'histoire d'une femme qui vient d'avoir une relation amoureuse et veut que son amant puisse l'aider à effacer tous les souvenirs amers qu'il a vécu. Serviteur, voici donc Rin Jamain avec sa chanson intitulée Api Asmara ou Feu de romance. Bonne écoute et à demain!
Haruskanlah kenangan Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dini hari semakin dingin, gerimis
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Au revoir.